18h-19h, Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on vous a concocté aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, du nouveau, et on va surtout parler de la Coupe de la Ligue, des performances
la coupe
de...
du monde, ouais,
des performances
Coupe du monde.
Et de la victoire de Strasbourg face à Marseille.
Mais,
au tir au but.
J'ai pas entendu Marseille. Non, il y aurait non comprendre. Que passe à Marseille.
Il comprend plus là.
Non, problème,
on peut compter sur DJ Kim. Merci à
non,
DJ Kim pour ce début.
DJ Kim, DJ Kam, il fait autre chose dans le commerce. Rien à voir.
En tout cas, on va parler de la Coupe de la Ligue. On va surtout recevoir aussi un invité, Michael Tapiro, directeur
est-ce qu'il
a de la
ses papiers d'abord.
Mais bien sûr, il est directeur de la Sport Management School.
Il est contrôle de police en bas de la radio.
Eh ben, il est prêt. Il a tous ses papiers.
Il est pas papier, pas possible.
Hein, il a ses papiers.
Est-ce que tu t'appelles Guillaume? Espèce de mytho, t'as la gueule d'un arabe.
Ryan.
Déjà. Dis la vérité, t'appelles comment?
Guillaume Ryan. Guillaume Ryan Ascari.
Espèce de saloperie, tu veux mentir aux auditeurs.
Voilà. Mais lui, la vérité.
Ah, le mec, il veut faire du français alors que c'est un arabe, le mec. Faut pas déconner à un moment donné, hein. Faut dire la vérité.
Et ben voilà, on a connu la vérité
ah bah tiens,
grâce à toi.
Derrière toi, la police pour toi.
Ah là, mince, elle arrive, mince. Et ben
on commence à avoir chaud au niveau du front. Bon, je t'ai foutu un peu le bordel dans ton début d'émission.
Totalement.
Bon, bonne émission.
Mais c'est
top.
Ça met l'ambiance. Merci à toi,
moi,
DJ Kim.
Je suis avec Jordan, donc je suis obligé de vous laisser, les mecs.
Bon,
sinon, on fréquente la.
Ça va parler basket, là, Jordan.
Non, pas Jordan, le basketteur. Jordan, mon pote. C'est un pote à moi, c'est un feu, j'y vends des téléphones portables. Jordan.
Ici, c'est iSport.
Ah oui, c'est ici. Là aussi, c'est un téléphone, je l'ai volé, j'ai couru, j'ai fait du sport. Voilà, faut dire la vérité. Bon, je plaisante, mesdames et messieurs.
Merci à DJ Kim pour ce début d'émission. On va parler, comme je vous ai dit, de la Coupe de la Ligue et de cette défaite de Marseille. On va parler avec Michael Tapiro.
Il relance le sujet.
Pourquoi tu parles comme ça et pourquoi tu es énervé? Moi aussi, je peux faire l'énerver. On va parler de Times War, on va parler de foot, de la Coupe de la Ligue, mesdames et messieurs. On va parler de qui?
Eh ben on va parler de la Coupe de la Ligue, du PSG,
bon,
de la
SM. Le menu c'est que la Coupe de la Ligue. Si vous en avez rien à foutre, eh ben vous allez vous doucher, vous faites autre chose.
C'est ça. Et on va parler de la Coupe du monde des clubs. C'est parti pour Time Sport, c'est parti pour une heure. Merci DJ Kim.
Time Sport.
Et autour de nous, il y aura pas DJ Kim malheureusement, mais en tout cas, il y aura vos consultants, nos consultants, Saïd Hamda. Comment ça va, Saïd?
Ça va super, c'est beau, il a mis l'ambiance. Là, l'ambiance, je suis chaud d'attaque.
Tout le monde est en ébullition là, en ébullition, on est comme dans un stade. Bassim Haroun, comment ça va, Bassim?
Ça va et toi?
Eh ben écoute, au taquet, on est chaud. Nassim Bourras, c'est le plus chaud de tous là, je le sens.
Ah oui, là, je suis tellement chaud, là.
Il a pris la voix
là. C'est ça.
Un peu douteuse.
C'est ça.
On parle pas de la même chaleur.
Mais c'est quoi vos esprits mal placés, là? Non, non, non.
Là, je suis chaud, là.
Non, non, non.
Il y a aucun esprit mal placé.
Mais voilà.
Et la preuve, c'est qu'on va parler de sport pendant une heure, chers auditeurs, chères auditrices. Je rappelle que vous pouvez réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook. Et on va commencer avec la sale période, vraiment, pour l'OM. C'est la Coupe de la Ligue, c'est l'heure du ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et pour ce ras-le-bol, comme je disais, c'est une sale période pour l'OM en Coupe de la Ligue, puisqu'en huitième de finale de la Coupe de la Ligue, c'est au tir au but que les Olympiens se sont inclinés 4-2 après un match nul, un partout durant un long match. Hein. Il faut le dire, on reviendra sur ce match avec dans quelques instants avec nos consultants, éliminés de la Ligue Europa, de la Coupe de la Ligue, à la peine en championnat pour la course au podium. La saison des Marseillais est-elle déjà passée par perte et profit alors que nous sommes qu'à quelques encablures de la trêve hivernale. Bassim. C'est la question. Elle était tellement longue.
Il a bégayé. Genre.
C'est ça. Est-ce que je vais te la faire plus court parce qu'on m'a écrit ça. Est-ce que les Marseillais ont tout perdu?
Voilà.
Voilà, ça y est.
En tout cas, ils ont rien gagné, mais on s'attendait pas à ce qu'ils gagnent quelque chose cette saison. Moi, le gros problème que j'ai avec Marseille, c'est les résultats, ça a toujours été trompe-l'œil, parce que l'année dernière, tout le monde se vantait de la finale de Ligue Europa, mais au final, sur le terrain, c'était pas bon ce qui se faisait. C'était moche à voir, et là, tu continues dans la mocheté. Et le gros problème pour moi à Marseille, c'est que le stade est vide.
Et ça, hier, il était vide au Vélodrome. Hein.
T'as 7000 personnes au Vélodrome. Donc, sincèrement, je trouve que ce club est en train de mourir et c'est en train de mourir en silence. Et pour un club qui, de base, on vante les mérites de sa passion, ses supporters passionnés, j'ai plus l'impression qu'il est en train de tomber dans une aseptisation et dans un silence qui est un peu malsain.
Saïd.
Mais moi, je pense en fait qu'ils sont pas nuls parce que le stade est vide. Le stade est vide parce qu'ils sont nuls. Et ça, c'est une sacrée nuance.
C'est parce que les supporters sont en colère.
Voilà, donc ils ont raison quand on voit la prestation qu'ils ont eu face à Strasbourg, ben on comprend vraiment la frustration des joueurs. Normalement, l'Olympique de Marseille doit montrer quelque chose de mieux. Avant le but de Gustavo, voilà, on n'a pas vu grand-chose. Et après, ils te donnent un petit peu d'espoir à 10 minutes de la fin et ils ne sont pas capables de gagner ce match. Donc voilà, moi, les supporters, je les comprends totalement. L'Olympique de Marseille, c'est un petit peu honteux. On en parlait déjà hier. Mais tant que sur le recrutement, tu vas pas faire quelque chose, tu peux rien construire avec cet effectif-là. Il y a plus la même motivation que l'année dernière, il y a plus la même dynamique. L'année dernière, ils avaient eu un tirage favorable et du coup, on passait tour en Ligue Europa et donc ça a créé une dynamique et on s'est dit il y a quelque chose à faire. Cette année, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Il faut arrêter de penser que d'une saison à l'autre, on va vivre la même chose. T'as plein de joueurs qui servent à rien. Oubochan, Abdennour, c'est des mecs-là qui prennent un salaire. En plus, ils prennent pas un petit salaire, mais qui ne jouent pas du tout. T'as des NG qui ne jouent pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est, à un moment donné, il faut aussi dégraisser l'effectif, faire tourner, acheter des joueurs, mettre de la concurrence. Comme on disait, il n'y a pas de buteur dans cette équipe. Les buteurs, c'est Payet et Thauvin, et c'est pas leur rôle. Je le répète, c'est pas leur rôle. Donc, l'Olympique de Marseille a besoin d'un neuf, mais pas que ça. Mais tant qu'on n'a pas réglé ces soucis-là sur la qualité d'effectif, Marseille aujourd'hui, moi je comprends totalement les supporters marseillais et j'espère qu'ils vont poursuivre le mouvement. Il faut vraiment montrer qu'il y a un réel désaccord avec la politique du club actuellement.
Marseille a-t-elle mis un terme à sa saison après justement être éliminée de la Ligue Europa, de la Coupe de la Ligue? On continue d'en parler avec notre consultant Nassim Bourras. Est-ce que Marseille a raté sa saison pour être déjà tiré? Peut-être que c'est des conclusions hâtives, tu vas me dire, mais est-ce que finalement elle a plus grand-chose à jouer hormis se sauver dans ce championnat?
Il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites dans ce plateau depuis le début de l'émission, et moi je vais être très direct. La saison de l'OM, elle est terminée. Elle est vraiment terminée, il n'y a pas de conclusion hâtive à faire. Ils étaient en Ligue Europa, ils sont sortis avec un point, je ne rappellerai pas le nom des adversaires. En Ligue 1, ils sont totalement largués, vu de toute façon, la Ligue 1, on sait déjà qui l'a remporté. En Coupe de la Ligue, voilà. Et je crois qu'ils sont encore en lice en Coupe de France, si ce n'est qu'ils vont.
Ils n'ont pas encore joué, donc.
Ils n'ont pas encore joué, voilà.
Il y a
donc,
que les petits tours, là.
Voilà. Il y a encore les petits tours. Bon, on sait jamais. Peut-être qu'ils vont se faire sortir par une CFA. Peut-être que là, à partir de là, Rudy Garcia prendra en compte les avis qu'il y a contre lui. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'un truc. C'est que la gestion, managériale de l'effectif de l'Olympique de Marseille est cataclysmique. On a des joueurs hors de forme mentale. Et, à chaque match, Rudy Garcia nous pond un nouveau 11, sans queue ni tête, avec des attaquants qui n'ont pas foi en eux, des défenseurs qui ne vont pas ensemble. Je comprends pas. Mandanda. En
Donc pour toi, le problème, c'est Rudy Garcia.
Rudy Garcia et les joueurs, mais surtout Rudy Garcia, parce que là, normalement, quand tu es dans une situation comme ça, tu mets toujours le même 11. Même si ça peut paraître paradoxal, tu mets toujours le même 11 pour qu'au moins il y ait une cohésion à la fois tactique, technique, mais aussi mentale. Comme quoi, voilà, on perd ensemble, on gagne ensemble.
Après, là, c'est difficile de faire ça quand t'as des joueurs qui n'apportent pas satisfaction.
Mais le problème, c'est que
redonner encore du temps de jeu.
Personne n'apporte satisfaction dans cet effectif. Donc à partir de là, autant reconduire toujours le même 11. À partir de là, tu te dis comme quoi, voilà, ça fonctionne bien. Après, je vais revenir sur ce que disait Bassim par rapport aux supporters. Moi, je trouve ça scandaleux. On a l'Olympique de Marseille qui est dit par beaucoup de supporters français et même supporters de l'OM qui disent comme quoi, oui voilà, c'est le meilleur public de France. Non, désolé, non. Déjà, rien que l'adversaire du soir, Strasbourg, fait guichet fermé à tous les matchs. Guichet fermé à tous les matchs, alors que...
C'était le meilleur public de France.
Ah. Peut-être. Mais enfin, non.
Il y a Mariama Benrabia qui vient nous rejoindre dans le studio, faut le préciser.
C'est le meilleur public. C'est le meilleur public selon les circonstances. Quand on est en demi-finale de Ligue Europa, c'est le meilleur public, il n'y a rien à dire. Mais quand on est en phase de poule de Ligue Europa, oh, ça nous dérange d'aller un jeudi après-midi voir les matchs. Quand l'Olympique de Marseille fait 4-5 matchs d'affilée en des défaites, oh, on va pas voir le match, on va faire la grève. C'est quoi ce public?
Ça s'appelle les supporters, c'est comme ça le football.
Je vais répondre à cet argument. Je vais vous prendre le cas du FC Magdebourg en Allemagne, vu que je suis la Bundesliga. Cette équipe est avant-dernière de D2 allemande. Avant-dernière, elle n'a pas connu la victoire depuis 3 mois. Ils sont partis à Cologne la semaine dernière pour une défaite 3-0. Ils ont traversé 450 kilomètres et ils étaient 3000 supporters à avoir fait le déplacement. C'est l'avant-dernier du championnat de deuxième division allemande et les mecs font 450 bornes pour aller voir leur équipe perdre 3-0. Et après, on va me dire
on sait que tu préfères la Bundesliga à la Ligue 1.
Non, c'est pas une question de Bundesliga.
Il a pas
menti
qu'il était chaud.
Vous le voyez aussi dans les divisions inférieures anglaises et même en première ligue et même dans d'autres championnats.
Mais après, tu compares
des pays. Oui, mais là, on est en France. La France, c'est différent. Vous savez bien qu'on est râleurs ici.
C'est juste que l'Olympique de Marseille se targue d'être le meilleur public de France alors qu'il ne l'est pas. Même à Rennes, même à Strasbourg, on est meilleur, c'est tout.
Est-ce que vous connaissez un seul public en France, hormis le RC Lens à une époque, qui ne fait pas la gueule quand on perd?
Mais tu peux faire la gueule et te rendre au stade.
Saint-Etienne. Saint-Etienne, Saint-Etienne.
Et Lyon
aussi, mais surtout Saint-Etienne. Saint-Etienne, malgré les défaites, malgré ce qui s'est passé dans les campagnes européennes désastreuses, même Rennes, qui ont quand même des sacrées saisons catastrophiques, ils continuent à aller au stade. Il n'est pas rempli à 100%, mais il nous offre pas le spectacle désastreux des matchs de l'OM. Non, je suis désolé, on peut pas dire ça.
Mais Bassim, je vais te répondre, puisqu'il y a...
Non, c'est Nassim.
Nassim.
Comme je le vois, tu
vois. Nassim n'a pas parlé encore.
Mon argumentaire l'a mis en PLS, donc il confond les prénoms maintenant.
C'est l'habitude. Vous aussi, vous avez des prénoms à une lettre près, faut changer un truc, les gars. Non, Nassim, pour te répondre, il y a deux écoles. T'as les supporters qui vont continuer à supporter, quoi qu'il arrive, leur équipe. C'est une certaine façon de penser. Et comme tu le dis, voilà, ça se fait beaucoup en Allemagne. Et ça se fait, par exemple, à Lens, actuellement, où les supporters ne lâchent pas leur équipe. Mais t'as aussi cette façon de supporter ton équipe en les boudant, mais temporairement. On sait très bien que les supporters de l'Olympique de Marseille ne vont pas bouder le stade toute la saison. C'est vraiment ponctuel pour dire là, on est mécontent. Et c'est ça qui va permettre de créer un électrochoc dans la direction marseillaise pour réveiller les consciences et même pour mettre la pression sur les joueurs de dire là, on vous regarde pas, là, on vous suit pas. Après, c'est une façon de penser. T'as la façon de penser qui dit vous pouvez prendre 5-0, on sera toujours là. Et t'as la façon de penser de dire vous ne méritez pas de prendre 5-0. Donc quand vous prenez 5-0, nous, on vous boude. Donc le match suivant, on attend mieux de vous. Donc c'est deux façons de penser. Mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est juste deux stratégies.
Après, Saïd, c'est pas la façon de penser qui, de base, était comme ça au Vélodrome. Parce que je me rappelle d'un Vélodrome dans les années 2000. Et dans les résultats dans les années 2000 de l'Olympique de Marseille étaient quand même pas meilleurs qu'aujourd'hui.
Oui, voilà,
et le stade, les gens étaient présents et les gens protestaient. Aujourd'hui, tu peux pas. Pour moi, c'est facile de rester chez soi. Et de dire non, mais c'est nul, il se passe rien dans le stade. Vas-y, il se passe rien sur le terrain, je vais pas au stade. C'est trop facile. Tes supporters, tout le monde se targue d'être là dans les bons et dans les mauvais moments. Tu dois être présent et tu dois protester. Mais après, je pense que les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont créé cette mentalité au sein même des tribunes marseillaises parce qu'ils ont endormi le club à base de fausses promesses, à base de faux débats par rapport au PSG, par rapport à l'argent, par rapport à la passion. Et au final, les gens sont endormis là-dedans et se retrouvent maintenant sans vraie valeur avec un effectif de mecs qui sont payés à rien faire. Faut dire ce qui est sans rentrer dans la démagogie, avec un entraîneur qui ne sert à rien, qui ne fait aucun bon choix depuis le début de saison.
Il n'a plus la main mise sur son vestiaire en fait.
Mais le problème, c'est qu'on a déplacé le débat sur l'argent. Mais au final, l'argent, il est présent. Les mecs, Mitroglou, il a été payé. Payet, il a été payé très cher. Juste, cet argent, il est mal utilisé.
En tout cas, les amis, je tiens juste à dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'on parle de l'Olympique de Marseille et surtout de son résultat, sa défaite 4 buts à 2.
Enfin, son
élimination au tir au but, 4 buts à 2 après un match nul. Et pour en parler dans le studio, on a Mariama et on a Brice qui nous accompagne. Brice, que penser justement de ces performances, si on peut appeler ça des performances, de l'Olympique de Marseille?
C'est pas des performances, c'est une catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe absolue, absolue. Ça fait combien? Ça fait 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Ça fait 7 défaites. C'est pour le plus grand club quand même de l'histoire du football français, c'est une catastrophe.
Mais surtout, quel club européen actuellement peut, avec ce bilan-là, ne pas virer son entraîneur?
Mais je crois qu'en plus, c'est 42 buts encaissés en 23 matchs. Ce qui est énorme pour un club comme l'OM. On n'attend pas forcément des performances pareilles d'un club de ce niveau. Et puis surtout, par rapport aux promesses effectivement qui avaient été affichées par les dirigeants marseillais, à un moment donné, oui, il faut apporter quelque chose aux supporters. Forcément, les supporters vont être mécontents. Ils vont pas se présenter au stade avec enthousiasme, en tout cas.
Et du coup, on en parlait au début, éliminé de la Ligue Europa, de la Coupe de la Ligue. Comment envisager un retournement de situation?
Justement, je crois qu'il y a eu une réunion récemment des dirigeants. Donc je pense que l'objectif, c'est quand même de faire bouger les choses. Et a priori, il y a eu cette réunion, c'est pour faire bouger les choses. C'est pour améliorer les choses dès ce mercato.
On va continuer de parler de la Coupe de la Ligue juste dans quelques minutes. Restez connectés sur Beurre FM. On va parler de football avec Mickaël Tapiro, directeur de la Sport Management School. On va parler de la Coupe du Monde des clubs et surtout de la Coupe de la Ligue. Restez connectés sur Beurre FM.
18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Beurre FM et avec les consultants de Time Sport, Saïd Hamda, Brice Tailly, Bassim Barun, Nassim Bourras et Mariam Abenrabia. On a parlé de la Coupe de la Ligue, notamment de la défaite de Marseille face à Strasbourg.
L'élimination,
c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ils passeront pas de toute façon, quoi. Maintenant, c'est fini. Et on va parler maintenant de sport avec un directeur, le directeur de la Sport Management School, Michael Tapiro. On va également parler de la Coupe de la Ligue et de la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, on enchaîne avec Incroyable mais vrai et notre invité Michael Tapiro. C'est parti. Time Sport. Et donc oui, on reçoit Michael Tapiro, directeur de la Sport Management School. Bonsoir Michael.
Bonsoir à tous.
Donc vous êtes directeur, pour vous présenter un peu à nos auditeurs et nos auditrices, de la Sport Management School, école de commerce post-bac entièrement dédiée au métier du sport business, sport marketing, créé en 2010. Quels sont les genres les types de sports ciblés par la Sport Management School?
Alors, évidemment, les sports les plus porteurs, le football, le rugby, le tennis, le sport automobile, mais on se concentre aussi beaucoup sur les petites fédérations, l'escalade, le sport en entreprise, où justement il y a des potentiels pour créer des nouveaux emplois, et les jeunes sont assez friands de ce genre de fédération ou de petits clubs où on a besoin de professionnaliser. Voilà, donc on est en fait généraliste dans le monde du sport business.
Et où il y a des activités sportives que vous ne prenez pas en considération pour diverses raisons? J'en ai pas entendu, mais c'est à vous de me le dire.
Ah non, mais on les prend toutes. En fait, on a un profil un peu à part, comme c'est une école de management orientée vers le sport business. Toutes les personnes qui viennent chez nous, elles ont aussi des caractéristiques un peu particulières. Elles sont sportives ou alors elles sont arbitres. Elles sont passionnées. Ils font même du e-sport. Donc toutes ces choses-là font que on se retrouve avec des profils qui iront dans tous les sports et dans tous les vecteurs possibles. Et sincèrement, il n'y a pas de limite aujourd'hui. On a même vu des étudiants qui créent des nouveaux sports. Vous savez, comme le sport où on joue sur un comme au golf avec un ballon de football, par exemple, ou des sports alternatifs avec des raquettes. Tout est possible à partir du moment où le sport est à la fois un vecteur physique parce que ça permet d'être en bonne santé, et aussi un vecteur social parce que ça réunit beaucoup de personnes autour d'un ballon, d'une raquette ou d'un chronomètre.
Et pouvez-vous nous expliciter le ou les cursus que vous proposez dans cette école?
Oui, alors c'est très simple. Après le bac, vous avez un cursus en 3 ans qui s'appelle un cursus bachelor, et un cursus en 5 ans qui est un MBA. Voilà, au bout de 3 ans, on est capable de travailler dans le monde du sport. On a eu, grâce à l'école, pendant 3 ans, énormément d'expériences professionnelles autour de stages, de missions, de projets, mais aussi de bénévolat. On pousse nos étudiants à aller vers les associations qui proposent des bénévolats. Et aujourd'hui, voilà, c'est assez symptomatique. Les étudiants construisent en fait leur projet professionnel autour de l'école, et en règle générale l'atteignent parce qu'ils ont eu les bonnes missions et les bons projets pour cela. Par exemple, on a pas mal de gens qui aimaient bien le golf, et pendant 2 ans ils ont travaillé en collaboration autour de la Ryder Cup, et aujourd'hui bien sûr ils sont intégrés complètement dans le sport business et dans le golf en particulier.
Nos consultants ont quelques questions à poser, notamment notre consultant Nassim Bourras. Nassim, je te laisse la parole.
Oui, bonsoir. Déjà, merci à vous de pouvoir répondre à nos questions. Je voulais savoir, en fait, vous avez parlé de l'e-sport. Ce serait pour savoir, en fait, quel est votre avis sur le développement de ce nouveau sport. Est-ce que, comme certains, vous êtes dubitatif sur sa présence aux futurs Jeux Olympiques? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un développement intéressant en France? Et est-ce que vous pensez pouvoir donner à cette discipline suffisamment d'images via votre école?
Ouais, alors je vais vous répondre très simplement. L'e-sport, c'est un phénomène, industriel majeur. Et encore une fois, j'en parle facilement parce que moi, je suis croyant, mais je suis pas du tout pratiquant. Voilà, donc je vois 100% de mes étudiants depuis une quinzaine d'années jouent à la PlayStation, jouent avec FIFA, jouent avec d'autres jeux, etc., etc. Donc c'est une réalité. Maintenant, l'e-sport, c'est intéressant parce qu'il y a des compétitions autour de ces logiciels, et des compétitions qui drainent des personnes physiques, c'est-à-dire que vous remplissez des stades. Ça, c'est la première chose. Donc, d'un point de vue industriel, vous vous retrouvez avec une réelle attractivité, et notamment autour des marques, toutes les marques qui sont aujourd'hui, vous prenez Adidas, EDF, SNCF, Coca-Cola, etc., elles y sont toutes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir si c'est considéré comme un sport ou pas. Aujourd'hui, vous avez des coachs pour le e-sport, vous avez des agents pour le e-sport, vous avez des préparateurs physiques. Donc, ça devient un sport à partir du moment où il y a une compétition avec un podium à la fin. Quant à savoir maintenant si ça peut être ou ça doit être un sport olympique, vous savez bien que, aussi bien que moi, que que pour être sport olympique, il y a à la fois être un sport et puis il y a aussi beaucoup de politique autour de ça. Hein. Par exemple, il y avait une énorme influence de la Corée autour des Jeux olympiques. Donc le taekwondo, qui est un sport coréen et sport olympique, et le karaté, qui est un sport japonais, ne l'est pas, par exemple. En tout cas, pour l'e-sport, il y a fort à parier que d'ici à quelques Olympiades, on testera le e-sport. Hein. Ce sera un sport, comme on dit, en démonstration. Si vous voulez mon avis personnel sur e-sport en tant que sport olympique, moi j'estime qu'un sport olympique, c'est un sport qui ressemble un petit peu à ce qu'avait créé le baron Pierre de Coubertin pour les premiers Jeux olympiques de 1896, c'est-à-dire voilà, des sports dans un stade avec une compétition physique plus qu'une compétition autour d'un logiciel ou de quelque chose de digital.
Voilà, il y a notre,
j'ai répondu à la question.
Il y a notre consultant Brice Taï qui veut poser une petite question également. Brice, à toi.
Nickel Tabirou, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, donc une question. Alors, on sait que prochainement, donc en France, on aura donc la Coupe du Monde de rugby en 2023. On a les Jeux Olympiques aussi en 2024. En termes de débouchés, vous, votre école, qu'est-ce qu'elle propose? Parce qu'on sait qu'on aura des besoins pour ces compétitions.
Ah ben, écoutez, c'est très simple. On s'est rapproché de ces organisations, évidemment, parce qu'il va y avoir des besoins à la fois dans la création de tous les nouveaux métiers qu'il va y avoir autour de la réception, de la communication, de l'événementiel, de l'accueil, de la gestion des bénévoles, de la gestion des collaborateurs, etc., etc. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces organisations-là sont à peu près autour d'une vingtaine de personnes. Elles risquent d'être 2 à 3000 à l'échéance de la compétition. Donc, c'est assez ahurissant de voir le levier que ça peut représenter. Après, je crois que ça fait déjà pas mal de temps qu'on travaille avec le mouvement olympique, ça fait déjà pas mal de temps qu'on travaille avec le rugby. D'ailleurs, on a quelques étudiants qui ont signé des contrats à durée indéterminée dans ces structures-là. On sait qu'on a des relais de croissance. En tout cas, personnellement, on avait, je dirais, misé sur ces compétitions-là. On avait tout fait pour que la France puisse l'obtenir. On a été soutien. Nos étudiants ont participé aussi à certaines campagnes. Et voilà, il y a fort à parier que d'ici à 2023 pour le rugby et 2024 pour les Jeux Olympiques, bah de nombreux étudiants seront dans les équipes qui parraineront ces Jeux Olympiques.
Un peu avant la Coupe du Monde 2019, la Coupe du Monde féminine de football.
Pareil, je crois que c'est important. Nous, on a toujours misé sur le sport féminin. On a d'ailleurs, même dans les promotions, je fais tout pour qu'il y ait un maximum de parité dans les promotions. Je ne vous fais pas de dessin, le sport business ou le sport en particulier, c'est souvent je dirais, une prédisposition pour les populations masculines. Le sport féminin est fondamental et bien sûr les femmes dans le sport, on n'a qu'une seule présidente de fédération. En tout cas, nous, je sais qu'à l'école, parmi mes 14 collaborateurs, 12 d'entre elles sont des femmes. Donc voilà, on fera tout pour que on puisse soutenir le sport féminin et bien sûr la Coupe du Monde qui aura lieu en France.
Avant de terminer, dernière question avec notre consultante Mariama Benrabia qui veut poser une petite question à toi.
Oui, bonsoir
Mariama.
Mickaël. J'ai deux petites questions. La première d'abord, c'est est-ce que le cursus est reconnu par la profession ou par l'État?
Alors, c'est simple. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de penser un cursus. La reconnaissance par l'État, c'est un peu comme la reconnaissance universitaire. C'est-à-dire que l'État préside à ces diplômes-là. Nous ne sommes pas comme une université, nous sommes reconnus avec un titre qui s'appelle le RNCP, d'accord, c'est le registre des compétences professionnelles. Donc ce n'est pas le ministère de l'Éducation, mais le ministère du Travail, parce qu'on estime que nous, on forme des gens à des métiers et pas à des diplômes. Un diplôme qui ne sert à rien est un diplôme qui ne sert à rien. Nous, on essaye depuis le début de faire en sorte que ce diplôme corresponde à des jobs, corresponde à un avenir professionnel. Donc RNCP, ministère du Travail. Et ensuite, la reconnaissance la plus importante, c'est la reconnaissance du milieu. Et il est clair et avéré qu'aujourd'hui, la Sports Management School devient un réflexe dès lors que l'on doit engager un stagiaire ou qu'on doit proposer des projets à des étudiants et évidemment pour des CDD, des CDI. Donc ça, voilà, ça nous a demandé beaucoup de temps, mais en même temps, on a fait un énorme effort autour de notre réseau. On avait d'ailleurs fait quelque chose de formidable, c'est qu'à chaque étudiant, on a collé un par un du monde du sport business. Donc un étudiant, un par un, ça faisait beaucoup d'entreprises, ça faisait beaucoup de professionnels. Et grâce à ça, eh bien, aujourd'hui, il y a un flux continu vers, je dirais, la professionnalisation et pas forcément le fait d'accumuler les diplômes.
Merci Mickaël Tapiro pour cette interview. Je rappelle qu'on pourra la retrouver en replay sur beurrefm.net. Merci, excellente soirée.
Avec plaisir.
Et on va passer, après avoir parlé sport, après avoir parlé e-sport, on va passer à la Coupe de la Ligue à nouveau, surtout avec la victoire de l'ASM face à Lorient. C'est parti pour la victoire.
Time Sport, la victoire.
On va parler de la victoire de l'ASM, mais il y en a d'autres. Il y a celle du PSG, il y a celle de Lyon, Amiens et Orléans qui ont perdu face au PSG et face à Lyon. Mais on va parler surtout de Lorient qui a perdu face à l'ASM. Une victoire qui donne du baume au cœur au Monaco de Thierry Henry avant le choc des mal classés samedi contre Guingamp en Ligue 1. Ce match peut-il continuer, peut-il constituer la base d'un nouveau départ, d'une saison qui débute ? Nassim.
Tu veux pas dire que tu vas relancer la machine avec une victoire contre une équipe de Ligue 2 ?
Oui, mais ça donne de l'espoir à chaque fois.
Ça donne de l'espoir, oui, ça permet de pas creuser le trou qui existe déjà, mais c'est pas ça qui va te faire sortir du trou. Tu y es encore, bien comme il faut, et c'est pas forcément un motif d'espoir, c'est juste un motif de qui permet d'éviter le désespoir, en quelque sorte. Ce serait plutôt ça, en fait. Parce que là,
est-ce que t'es optimiste avec Monaco ?
Ah, pour cette saison, non. Pour cette saison,
c'est difficile.
C'est le genre de saison où rien ne va, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau du staff et que ce soit au niveau des blessures. Il y a rien qui va, ça arrive, il y a des saisons comme ça. Et là, pour le coup, Monaco est en plein dedans. Je pense que cette saison est vraiment foutue pour eux. Après, de là à penser qu'ils vont être relégués, je pense pas. Mais vraiment, cette saison va être compliquée du début à la fin. Après, voilà, pour répondre à ta question, c'est pas le match contre Lorient qui est censé redonner de l'espoir. Ça aurait été plutôt une victoire en Ligue des Champions pour la dernière qui aurait été intéressante. Mais là, non, c'est pas vraiment.
L'important, ça va être de sauver cette saison, surtout pour Monaco. Alors, ça va être l'objectif principal. Derrière, on va voir ce qui va se produire pendant le mercato, parce que c'est là que tout va se jouer, je pense. Et puis, l'arrivée de Franck Passy, on va voir ce que ça va pouvoir donner, parce que.
Et puis d'ailleurs,
parce que c'est s'ils le font venir, c'est aussi pour une raison.
Adjoint,
oui,
et
c'est
puis,
ça.
Et
ouais,
puis,
il ouais,
faut
bien
relever
sûr.
Que malgré ce succès encourageant, Monaco enregistre un nouveau blessé en la personne voilà. de William Goebel. Goebel qui est malchance ou malédiction pour Monaco.
C'est la question. Malchance, c'est tout. C'est une saison noire.
C'est aussi pour ça qu'il va falloir recruter durant le mercato.
Et ils ont commencé par Thierry Henry. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres consultants, Saïd ?
Mais justement, tu posais la question de l'optimisme. Je pense qu'on pourrait reposer cette question dans un mois après le mercato hivernal. Puisque là, Thierry Henry a dévoilé un peu la liste des quatre défenseurs qu'il souhaitait : Laurent Koscielny, Pep, Martin Skrtel et le dernier, je ne sais plus qui c'est. Mais voilà, c'est quatre défenseurs d'expérience qui peuvent apporter vraiment une stabilité à Monaco. Et je pense que quand tu veux reconstruire une équipe, eh ben tu commences dans l'ordre, donc avec le gardien et la défense. Bon, le gardien, ils ont déjà Benaglio, qui est quand même un gardien d'expérience, Subasic va revenir. Du coup, on n'a pas vraiment de besoin à ce poste-là. Par contre, en défense, il y en a. Et aller chercher des joueurs qui ont plus de la trentaine, c'est assez intéressant pour stabiliser cette équipe. Maintenant, cette victoire contre Lorient, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Ce qui est cool, c'est que voilà, ils sont encore en lice dans cette compétition-là. Et donc, voilà, au prochain tour, on se dit qu'il y aura quelque chose à faire avec le retour des blessés, etc. C'est toujours un motif d'espoir en se disant qu'il y a quand même un trophée encore à chercher cette saison. Parce qu'on sait que lors des coupes, il y a déjà les grands clubs, quand ils vont loin en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, bah, ne jouent pas spécialement cette coupe-là. Et c'est cette coupe-là qui est un petit peu méprisée puisqu'on mise plus sur le championnat. Donc Monaco a quelque chose à aller chercher là-dessus. Mais quand tu poses la question de l'optimisme, voilà, moi je reste persuadé qu'il faut la poser après le mercato hivernal et pas avant.
Et bon, on la posera cette question après le mercato hivernal. Restez connectés sur Beurre FM, on va parler du PSG. Est-ce que le PSG a-t-il droit de mettre à l'écart Adrien Rabiot? On va en parler dans quelques secondes. On va parler également de la Coupe du Monde des clubs. A tout de suite.
18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec vos consultants, nos consultants Saïd Hamda, Brice Taï, Bassim Baroun, Nassim Bourras, Mariama Benrabia. Et pour nous accompagner dans les derniers moments, Nabil Zindik également qui est présent dans ce studio. On a parlé de la Coupe de la Ligue, notamment de cette courte victoire, cette petite victoire de Monaco face à Lorient. Maintenant, on va enchaîner avec le PSG. Le PSG a-t-il le droit de mettre à l'écart Adrien Rabiot ? Rabiot, c'est l'heure du duel.
Time Sport.
Et on va donner la parole.
Duel.
Et pour ce duel,
tu t'es bien rattrapé, hein.
Je me suis bien rattrapé, t'as vu le jingle. Mais, il y aura du duel, là, parce qu'on va parler du PSG. Est-ce que le PSG a le droit de mettre à l'écart Adrien Rabiot? Brice?
Ils ont évidemment le droit. D'un point de vue légal, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, dans la limite, en fait, de l'acceptable, sachant que ce qui s'est passé avec Ben Arfa l'année dernière. Mais à partir du moment où Antero a dit, on va mettre Adrien Rabiot sur le banc, jusqu'à la fin de saison. Ils ont le droit de le faire. Donc, il n'y a aucun problème. On a quand même Adrien Rabiot, qui, depuis le début de saison, se fout de la gueule du monde. Il fait croire, en fait, à tout le club qu'il va prolonger. Et finalement, le type, au dernier moment, il nous dit que, Ah bah je sais pas trop finalement, je sais pas trop ce que je vais faire. À un moment, moi, je peux comprendre que le club sévisse. On a reproché longtemps au PSG de se faire balader par les joueurs, de se faire balader un peu par tout le monde. Soi-disant, l'institution PSG n'est pas forte. Moi, je suis content quand Théo tape du poing sur la table. Je pense que la récréation est finie. Donc, Adrien, il va aller sur le banc. Et voilà, le Marquis sur le banc, c'est une très bonne chose.
Est-ce que le PSG a le droit de mettre à l'écart Adrien Rabiot? On attend vos réactions au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag Thaisport sur Twitter et sur Facebook. Bassim, t'en penses quoi de cette affaire, pas cette affaire Rabiot, mais est-ce que le PSG a le droit de mettre à l'écart Adrien Rabiot?
Bah oui, après il est salarié du club. Si Tuchel ne veut pas le faire jouer, veut le mettre en tribune, c'est dans son droit, c'est dans le droit du PSG. Après moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant il y a eu cette déclaration d'Antero Henrique par rapport au cas Rabiot? Alors certes, Rabiot balade le club, ok, mais le club à un moment c'est des adultes. T'es dans une relation de business. Tu peux pas te faire balader pendant deux ans par un mec qui te dit, ouais, je vais prolonger, mais on va voir. Donc le PSG.
Il a fait plein de choses, hein, quand même, Rabiot. Il nous dit quand même, il y a deux ans, je vais être le Steven Gerrard du PSG. Donc à un moment aussi.
Oui, mais après, les promesses n'engagent que ceux qui veulent y croire. Et,
ah, j'adore cette phrase.
Je pense que c'est une erreur.
Attends, je le sens chaud. On va donner la parole. On finit avec Bassim. Vous aurez tous la parole sur ce sujet.
Non.
On continue avec toi. Tu trouves ça normal? Voilà.
Bien sûr, c'est normal de la part du PSG. Ce qui est anormal, c'est qu'on en arrive là maintenant. Ça aurait dû arriver il y a un an et demi, il y a deux ans. Là, t'as laissé le problème s'envenimer et maintenant t'arrives au mercato d'hiver et comme par hasard, Antero Henrique balance que Rabiot ne va plus jouer. Donc pour moi, c'est surtout un appel du pied à d'autres clubs pour, si tu vas avoir Rabiot et pas attendre cet été, sachant qu'il y a six mois encore de Ligue des Champions et que Rabiot est qualifié pour la Ligue des Champions, vas-y, fais-moi ton offre, même à 10 millions, on prend. L'idée, c'est de vendre Rabiot.
Ouais, pas 10 millions, je pense pas. Mais
Nassim, attendez, chacun aura sa parole. Nassim, tu as un petit mot à dire sur Adrien Rabiot, peut-être
aussi.
Mais oui, mais juste après.
L'avocat du diable.
L'avocat du diable, non, mais je suis totalement contre cette histoire. Et puis, je comprends pas, ça reste un joueur qui a signé un contrat. À partir de là, le contrat va d'une date à une date. Il est libre de vouloir quitter le club à la fin du contrat s'il le veut. Et même si ça ne rapporte pas d'argent à son club, il est dans son droit. Il doit respecter le club et faire ce qu'il doit faire pour rendre le club meilleur, c'est-à-dire jouer du mieux possible. Et si à la fin, il veut quitter le club sans indemnité, il le fait.
Tu prends le problème à l'envers quand même. La question, c'est de savoir si le PSG a le droit de faire ça.
Non, mais les deux ont le droit de le faire.
On finit juste avec Nassim.
Le PSG n'a pas le droit de le faire. Je suis désolé, c'est contre le droit du joueur.
C'est antisportif.
Le mettre sur le banc, c'est interdit.
C'est pas interdit.
Alors attends, c'est bizarre. Bizarrement, personne ne s'indigne que Lasdiara, depuis le début de saison, il est sur le banc. Personne ne prête pour lui.
Attendez.
On va rester.
On va juste finir avec Nassim avant de donner la parole à Mariama.
On peut pas comparer le cas de Ressé.
J'ai l'arme aux yeux, là. J'en ai l'arme aux yeux.
Parce que Rabiot,
en tant que supporter, c'est pour ça.
Non, pas sur les footballs.
Si le joueur présente le rendement suffisant à l'entraînement et qu'il a un niveau suffisant pour jouer,
c'est pas la question. Alors,
on n'a pas le droit de mettre un joueur sur le côté sous prétexte qu'il va quitter le club et qu'il va rapporter.
Dans ce cas, elle
est totalement similaire au cas Gomis quand il était à Lyon et que Aulas ne voulait pas le laisser jouer parce que sous prétexte qu'il allait pas rapporter d'argent à la fin de son contrat. Je suis pas d'accord. Un joueur signe un contrat, il va jusqu'au bout et s'il est responsable et s'il a le niveau, il joue.
Je vais poser une question à Mariama. Attendez,
c'est un actif d'un club, c'est pas un actif. En tant qu'actif, le PSG a le droit à un moment de dire.
Mais c'est pas une propriété exclusive.
C'est pas une propriété exclusive.
Le PSG aurait dû réagir il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'on doit réagir à 6 mois de la fin de son contrat.
Je vais te poser une question.
C'est une erreur du PSG. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à Rabiot, tu ne joueras pas parce que justement, tu ne veux pas partir contre de l'argent. Donc, le PSG a fait une erreur. Il a fait une erreur avant, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une affaire d'ego entre Antero Henrique et Rabiot.
Et tu le vois comment
Rabiot, l'issue. Oui, certes, un ego démesuré, mais Antero Henrique aussi.
Attendez, l'issue de ce bras de fer, Mariama, tu le vois comment?
Il ira au bout de son contrat et puis il sera libre. Il partira libre. J'en ai parlé déjà il y a deux jours dans cette émission. Je disais qu'il nous fera peut-être une Ben Arfa bis, enfin entre guillemets, hein, vraiment beaucoup plus courte aussi. Mais il fera ses 6 mois, il partira.
Au niveau de sa carrière, tu veux dire?
Non, pas du tout. Au niveau du contrat.
On parle qu'il a un ego démesuré. Rabiot, c'est quelqu'un qui est payé 3 millions d'euros la saison. soit beaucoup moins
parce
que des joueurs qui
mais parce qu'il a bien voulu parce qu'il a jamais voulu prolonger
c'est ce que le PSG n'a pas voulu donner à contrat à la mesure du joueur et de son temps de jeu et de son importance au sein du club.
Mais Nassim, tu rigoles là, j'espère.
Non mais il a pas refusé un contrat à 10 millions.
On va continuer le on va continuer le tour de table avec Saïd. Saïd, est-ce que tu penses qu'il y a une solution négociée est-elle encore possible pour le bien des deux parties?
Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi le PSG n'aurait pas le droit. Le PSG, tant qu'ils vont offrir à Adrien Rabiot les infrastructures, le cadre professionnel, comme c'est prescrit dans son contrat, il y a aucun souci. Maintenant, le fait que le PSG souhaite sanctionner entre guillemets Rabiot sportivement en lui disant tu ne vas pas jouer, c'est les choix du coach. On peut faire passer ça pour les choix du coach. Donc moi je vois pas le problème où on dit ouais.
Je ne pense pas que ce soit les choix du coach.
Non, je sais bien.
C'est au-dessus. La décision vient de là.
C'est un choix du coach également. Parce que avant même la déclaration d'Antero Henrique, Rabiot ne joue plus. Rabiot à Liverpool, enfin face à Liverpool, il n'était pas là. Rabiot à Naples, il n'était pas là. Rabiot, il n'a pas le niveau également. On parlait comme si Rabiot c'était justement Steven Gerrard. Mais à l'heure actuelle, cette saison, il n'est pas bon. Le mec ne veut pas re-signer son contrat et en plus, il donne pas ce qu'il faut sur le terrain. Donc à partir de là, tu le fais pas jouer. T'as raison. Le coach est dans son droit parce que Marquinhos à l'heure actuelle est bon au milieu de terrain. Bon, ça va. Et Rabiot,
ouais,
en même temps,
on
le mec ne veut pas
dire que Marquinhos c'est quand même le nouveau milieu de terrain du PSG.
Mais Rabiot ne fait pas d'efforts.
On parle quand même d'un mec. Quand même, attends. Quand même, cet été, c'est quand même passé un truc. On a gagné la Coupe du Monde. Et ce type-là, quand même, aurait dû faire partie de l'aventure. Pourquoi? Parce qu'encore une fois,
il aurait dû être réserviste.
Problème. Oui, pardon, réserviste.
Il y a un problème de comportement.
Attends, on peut même revenir. S'il y a pas les déclarations Geoffroy en Bulgarie, normalement, il est dans le groupe, d'accord? Parce que bon, je pense qu'il a un Tolisso dans chacun de ses orteils. C'est un autre sujet. Mais je veux dire, à un moment, quand même, ce mec-là a raté l'aventure de sa vie par son comportement. Et on est encore là, on arrive encore à trouver des Nassim qui nous disent
il y a aussi la faute du PSG. Puisque le PSG aurait dû lui sanctionner beaucoup plus tôt, ou en tout cas mettre la pression beaucoup plus tôt. C'est pas 6 mois avant qu'on le bannit, puisque aujourd'hui, c'est quoi la sanction? C'est qu'on lui dit, on va te cramer 6 mois de compétition, tu vas pas pouvoir jouer, et quand tu vas aller ailleurs, soit tu vas te blesser parce que tu seras pas en forme, ou soit aucun club ambitieux va vouloir te prendre. C'est un petit peu moche de la part du PSG, mais je comprends, c'est le jeu.
Les amis, on pourra en parler pendant des heures.
C'est un club qui t'a formé et tout ça pour toucher une grosse commission.
Attendez, les amis, on ne s'entend plus.
On a aussi le droit d'avoir envie de jouer ailleurs.
Mais c'est le droit du PSG également.
Les gens, oui, t'as le droit.
C'est le droit du PSG.
Les amis, on va finir avec Nabil Zindik. Un petit mot sur Rabiot. Est-ce que tu penses que le PSG a le droit de mettre à l'écart Rabiot? On finira sur toi parce que.
Bonsoir à tous. Non, je pense pas. Franchement, honnêtement, Rabiot, pur produit parisien. Il mérite. Qu'on le considère futur international français, parce que moi je pense qu'il va venir en sélection en équipe de France.
Tant qu'il y aura des chambres.
Non, il y a une négociation avec Noël Le Graët actuellement. Là, ils vont peut-être discuter du
Benzema
Carabio.
Aussi a bien négocié.
En sachant qu'ils vont mal gérer. Je pense que c'est surtout Antero Henrique et tout le clan d'Antero Henrique qui a mal géré le cas Rabiot. Effectivement, ce joueur est jeune, talentueux. A déjà prolongé, parce qu'il avait 18-19 ans, il a déjà prolongé. Là, il s'avère qu'il a une proposition de Barcelone qui ne se refuse pas, comme un Ousmane Dembélé, international français. Il a le droit de partir. C'est pas de l'esclavage moderne, quoi, le football. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il a le droit de partir.
Mais le PSG a le droit de ne pas le faire jouer.
Je trouve que c'est vache, parce que Thomas Tuchel, il comptait sur lui, il disait que du bien de lui, il était titulaire, et là, dernièrement, sur les matchs à enjeu, notamment Ligue des Champions, on l'a mis au placard.
Mais on l'a pas mis au placard parce qu'il voulait partir à Barcelone.
Donc ça me dérange.
Mais est-ce que c'est une façon de procéder? Est-ce que c'est une façon?
Il faut pas nous mentir. Tuchel arrive sur le terrain.
Attendez, pas une façon.
Non, tu peux pas dire que Marquinhos est meilleur que lui.
Attendez,
Rabiot fait preuve d'immaturité sur le terrain. C'est un joueur que j'aime beaucoup au niveau du talent, etc. Mais sur les derniers matchs, il a envie de partir à Barcelone, donc il le montre. Il marche sur le terrain. Il fait aucun effort, donc on est obligé de faire jouer par exemple Draxler à sa place alors que c'est même pas son poste. Donc à un moment, Rabiot, je veux bien qu'on le défende, qu'on dise il a le droit de partir, etc. Mais sur le terrain, il a pas répondu présent. Donc à un moment, le Paris Saint-Germain ne va pas faire jouer Rabiot parce qu'il s'appelle Rabiot.
Ce sera mon dernier mot et je vais être franc. Pour moi, le PSG, c'est un club sans couronne, parce qu'ils sont en train de faire à Rabiot ce qu'ils ont pas pu faire avec Verratti, tout simplement parce que Verratti, voilà, c'est un peu plus au-dessus de Rabiot. Voilà,
non,
Verratti, c'est exactement le même problème.
Verratti,
qu'on le contrat. il arrive, il maquait, non, j'avais signé.
Il a joué avec le PSG. Mais sauf que le PSG s'est couché, ils ont dit d'accord, Verratti,
mais je pense que le PSG s'est couché Il y a aussi et surtout le fait que Antero Henrique a eu beaucoup de loupés avant et aujourd'hui il veut se rattraper. Donc ça veut dire qu'il paye un peu pour les autres aussi.
Arrêtez de traiter Rabiot comme une victime.
Ouais, j'ai l'impression.
Tuchel est arrivé, je veux faire de Rabiot mon joueur au milieu de terrain. Emery a fait la même chose. Tout le monde fait confiance à Rabiot. Le mec ne fait même pas de très bonnes performances.
La question qu'on se posait.
Oui, mais dans ce cas, on ne dit pas il ne jouera plus de la saison. On dira on fera en sorte en fonction de son état de forme.
Pourquoi tu vas faire jouer un joueur qui va pas rester dans ton effectif? Tu vas mettre quelqu'un dans ton 11 et tu sais que dans 6 mois
Mariama,
actuellement, il peut le redevenir.
Il a menti.
Non, mais je suis désolé. C'est au coach.
Attendez, Nabil.
Il y a le même cas l'année dernière avec mon ami Jonathan Bamba à Saint-Etienne. Jean-Luc Gasset est arrivé. Il l'a mis titulaire. Il a rejoué. Il n'a pas voulu prolonger. Et il a joué quand même. Et il a porté les couleurs de Saint-Etienne jusqu'au bout.
Mais est-ce que Rabiot était titulaire cette saison? Est-ce qu'il a été bon?
Le buteur de Saint-Etienne à cette époque-là, c'était pas cohérent. T'enlevais ton meilleur buteur parce qu'il voulait pas prolonger. Là, Rabiot, c'est pas du tout le meilleur joueur du PSG.
Mais c'est pas parce qu'il ne l'a pas été cette saison qu'il ne le sera pas à l'avenir.
En tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, on a parlé du PSG. Notamment, je tenais à dire juste qu'on n'a pas eu le temps de le traiter de la Coupe du Monde des clubs avec Kashima Antlers contre le Real Madrid. Le Real Madrid qui a gagné 3-1 et qui s'envole pour la finale. On aura l'occasion d'en reparler sur Time Sport. Vous avez vu que Adrien Rabiot a quand même concentrer tous les esprits et cette heure de sport. D'ailleurs, on va finir avec le mot de la fin, hein. Le mot de la fin pour Mariama, parce qu'on s'entendait plus, les amis. Hein. Je tenais à le dire. Il y a pas de consensus. Ça, on est d'accord sur Rabiot. Le mot de la fin. Est-ce que un tribunal peut imposer de faire jouer un joueur? C'est ça la question.
Je ne pense pas, parce que c'est la question qu'il faut se poser.
Jamais de la vie.
Évidemment, mais de toute façon, temps qu'ils prennent en charge le dossier et qu'ils apportent une réponse à ça, je pense que ça mettrait des mois.
Il sera déjà parti du PSG, on sera déjà à la retraite, je pense.
Il a accès aux structures, il a son peignoir PSG.
Le tribunal pourra exiger qu'il ait accès à toutes les infrastructures, à s'entraîner par exemple dans le groupe pro, mais à jouer, il n'y a aucun tribunal. Sinon, tous les joueurs vont porter plainte.
Tu crées une jurisprudence.
Lothar Martinez qui va aller au tribunal pour dire je veux jouer.
Après, moi, j'ai envie de retenir quelque chose.
Ça reste un contrat de travail, c'est comme dans le monde du travail, c'est la même chose en fait. Si on vous demande de ne plus travailler mais qu'on vous paye.
J'ai envie de retenir quelque chose sur tout ce que vous avez dit, surtout ce qu'a dit Brice juste avant qu'on parle un peu de la Coupe du Monde des clubs. C'est peut-être aussi le comportement de Rabiot aussi. Hein. Il paye peut-être aussi son comportement. Hein. Ça vient pas de maintenant.
C'est vrai qu'il a pas toujours été irréprochable sur l'équipe de France et au PSG. Ouais, j'essaie d'être mesuré là-dessus. Pour ceux qui entendaient Rabiot Ballon d'Or, c'est pas moi qui disais ça. Hein. C'est quelqu'un d'autre.
Je pense que
c'est l'attitude sur le terrain aussi qui devient un peu détestable.
Le fait qu'il marche, ça fait...
Il fait pas les efforts. Emery lui a fait confiance, Tuchel lui a fait confiance. Le mec, il fait pas d'efforts à un moment donné. Et tu sais qu'il va se barrer. Pourquoi tu vas le faire jouer?
Pourquoi tu
vas tirer une balle dans le pied?
Sur le long terme, tu cherches quoi,
Saïd?
Sur le long terme, tu cherches quoi avec Rabiot? Tu vas le faire jouer 6 mois et après tu vas le mettre donc en forme et tu vas le rendre un joueur très bon physiquement. Il va être au top et il va aller jouer pour quelqu'un d'autre. Et toi, du coup, tu te retrouves avec un trou sur le milieu de terrain. Donc soit tu vas devoir recruter ou soit tu vas faire jouer un joueur qui n'a pas joué pendant 6 mois et donc tu vas te retrouver à reconstruire un effectif. Moi, il faut voir sur le long terme. On voit pas que sur les 6 prochains mois. On voit sur l'année.
Mais pour l'instant, le PSG voit sur les 6 prochains mois.
Oui, c'est ça.
Ils veulent gagner rapidement. Donc tu peux optimiser cette équipe.
Il y aura la trêve. On aura l'occasion d'en reparler du cas Rabiot, excusez-moi les amis, on a un peu pressé puisque évidemment on a parlé de plein de choses, de la Coupe, de la Ligue, on en reparlera aussi puisque il reste le PSG, il reste l'OL et il reste pas l'OM, mais bon, on en reparlera aussi lors de la Ligue 1. À demain, 18h-19h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.